Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Apollonia, comment tu vas aujourd'hui?
Très bien, merci. Et toi?
Ça va? Super. On va parler leadership. Et sans doute que la première question qui se pose, et je pense que la majorité des gens se posent parce que c'est majoritairement pas le cas des gens, c'est qu'est-ce que ça fait d'avoir un nom comme celui de Poilane?
Pour moi, mon nom de famille est un vrai objet de fierté parce qu'il représente trois générations de boulangers. Et c'est aussi tout le travail de mon père pour construire son entreprise que j'ai en tête quand je pense à mon nom de famille. Cela dit, mon nom de famille combinant l'idée du poil de l'âne, quand t'es dans la cour de récré au primaire, c'est pas le prénom, enfin le nom de famille le plus facile à porter.
J'avais jamais clairement pensé à ça. C'est fou.
Ouais.
Et alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire du fait que tes parents soient décédés dans un accident d'hélicoptère. T'as, par définition, récupéré l'entreprise très tôt. T'avais quel âge ?
J'avais 18 ans. Mais j'avais 18 ans, le bac en poche. Mes parents sont décédés dans un accident d'hélicoptère. Et à l'époque, je finissais mon apprentissage en boulangerie. Je travaillais au fournil. Et d'une certaine façon, du jour au lendemain, au lieu de descendre au fournil, je suis montée dans le bureau de mon père. J'avais prévu de prendre la suite de mes parents, mais clairement pas aussitôt. Je faisais une année off avant d'aller à l'université. Donc, j'ai poursuivi cette année off et je suis quand même allée à l'université en partageant mon temps entre Paris et Boston.
Parce que t'étais à Harvard. Comment on fait quand on a 18 ans pour gérer une société comme Poilane? Enfin, je veux dire, c'est...
Oui, alors, donc, pour te remettre dans le contexte, mes parents décèdent, je me retrouve à la tête de l'entreprise. J'ai une sœur qui a 2 ans de moins que moi. Il y avait l'évidence de la reprise, puisque j'avais ce projet dans le temps. Il y avait une équipe, celle que mon père avait mis en place et qui m'a soutenue dans mes premières années. Et puis, il y avait les amis de mes parents qui, eux aussi, ont été des soutiens pour m'aider et m'accompagner à devenir le chef d'entreprise, trouver ma place à la tête de l'entreprise. Et c'est cette alchimie de circonstances qui a fait que, en la circonstance, j'ai pu sereinement prendre la suite de mes parents, envisager de passer 4 ans à faire des allers-retours entre Paris et Boston pour faire mes études universitaires, compléter avec une éducation supérieure ce que mon père m'avait appris depuis que je suis toute petite sur le terrain. Mon métier, la boulangerie, quels sont ces différents métiers en dessous de, entre la production, la vente, qu'est-ce qui fait le quotidien de notre métier, le grain, la fermentation. Et ce sont toutes ces choses-là que j'ai pu avoir comme bagage lorsque j'ai pris la suite de mes parents et que j'ai complété avec une expérience terrain avec un genre de baptême du feu d'une certaine façon.
Et ce qui est intéressant dans ce que tu me disais, c'est que ce qui a facilité le mouvement, c'est que ton père avait un peu prévu aussi ce passage, quelque
part. Tout à fait, oui. Je pense qu'une des grandes forces ou des grands atouts que j'avais dans ma poche lorsque mes parents sont décédés, c'est qu'ils avaient prévu l'éventualité qu'ils pourraient mourir ensemble. Et ça, c'est en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, mais je le vois autour de moi avec mes copains qui sont parents, je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile, pas agréable, qu'on n'a pas envie d'envisager, mais qu'il faut de façon très pragmatique envisager et prévoir, c'est-à-dire, très basiquement, faire son testament, se dire si on a des enfants, qui va s'occuper de nos enfants en cas de décès, mais pour une entreprise, qui est-ce qui va gouverner l'entreprise? Mon père avait œuvré à cela et surtout avait une bonne équipe, et c'est ce qui a facilité grandement mon travail lorsque, avec son équipe, j'ai pris la tête de Poilane en 2002.
Et alors justement, quand on parle de la gouvernance, c'est quoi l'impact pour toi? Parce qu'en fait, j'imagine que quand on prend la tête d'une entreprise comme de Poilane à 18 ans, on s'appuie sur toutes les personnes que ton père avait prévues finalement.
Oui.
Ça a des impacts aujourd'hui sur ta manière de diriger la boîte, non?
Tu as raison, Greg. Il y a deux choses dans ce que tu dis. Effectivement, il y a l'entourage qui t'apporte leur savoir, leur expérience, là où elle te fait défaut, puisque j'avais 18 ans, le bac en poche. Mais il y a aussi, comme c'était le premier fonctionnement que j'ai connu, c'est aussi, ça forge aussi une certaine façon de dialoguer et d'avancer dans mon management au quotidien, dans mon travail d'entrepreneur, de savoir m'entourer, que ce soit avec des pairs, avec des mentors, avec des experts. Et c'est, pour moi, je pense que c'est important d'avoir ce collège d'expériences, de personnes, de regards, et qui peut nourrir mes envies, mes convictions, qui sont autant de miroirs, et le mot français va me perdre, mais de sounding board avec lequel je peux dialoguer pour construire mes directions.
Et alors, c'est marrant que tu dises ça, parce que j'allais faire le rapport entre le métier très terrien, j'ai envie de dire, de boulanger et Harvard. Mais en fait, là, ce que tu es en train de me faire, c'est aussi un lien entre la culture française et la culture américaine. Parce que dans la culture française, le leader, il doit tout savoir. Et finalement, il n'a pas trop le droit. Enfin, il n'est pas supposé avoir des aides. Alors que tandis que quand tu regardes aux États-Unis, en fait, ils ont plein de conseils dans tous les sens. Et ce que tu es en train d'expliquer, c'est que finalement, par la force des choses, tu as eu cette culture américaine, plus ou moins, mais en tout cas, de se dire, j'ai un collège de personnes qui vont m'accompagner, qui vont m'aider, parce que je ne peux pas tout savoir, et en réalité, il n'y a aucun patron qui sait tout. Et je pense qu'il y a une forme de solitude très forte des patrons, des leaders, quand ils sont dans leur position, parce que, effectivement, ils ne savent pas tout, et quelque part, c'est un peu bizarre quand ils ont des consultants ou des gens, pas des consultants, c'est pas la bonne manière de le définir, je ne pense pas, mais plutôt des gens sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer.
Des conseils,
finalement.
Ouais. Non, tu as raison, et c'est à la fois ma culture franco-américaine, puisque je suis française par mon père, américaine par ma mère, mais c'est aussi effectivement la façon dont j'ai pris la suite de mes parents, qui a aussi façonné ce regard-là. Et tu faisais le rapport un peu plus tôt entre un métier où on utilise nos mains, la boulangerie, et mon quotidien de chef d'entreprise. Et je pense que justement, ma connaissance de mon métier, la boulangerie, m'aide énormément dans mon quotidien de chef d'entreprise. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es au fournil, tu as une idée de la direction et de la feuille de route, de ton chemin de fer, les différentes étapes de la production. Là, tu mélanges les ingrédients, tu les laisses reposer une première fois, tu pèses, tu façonnes, tu laisses reposer une deuxième fois avant d'aller au four, et puis ensuite de laisser reposer les pains qui sont cuits avant de pouvoir les vendre ou les déguster. Mais à chaque fois, cette trame, elle va devoir être ajustée selon la saison, selon le temps qu'il fait dehors, ou même ton humeur, puisqu'elle impacte la façon dont tu vas travailler la pâte. Et ça, pour moi, c'est vraiment une bonne métaphore de mon travail de chef d'entreprise. Et au cœur de notre façon d'envisager notre production chez Poilane, c'est cette idée que la main de l'homme est intelligente, elle sent, et plus globalement nos cinq sens qui développent en final notre intuition de boulanger, notre bibliothèque de référence, c'est autant d'outils dans lesquels on peut puiser pour se dire, tiens, là on voit qu'il fait un petit peu froid dehors, la pâte va avoir un peu plus de mal à pousser, donc quand on fait ça, on sait qu'on a tels outils dans notre attirail pour aller de l'avant, pour compenser et pour arriver en finale à la même belle miche de pain d'à peu près 2 kilos devant toi, en sachant que la réalité pour fabriquer cette miche va être très différente d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre.
Est-ce que tu crois, du coup, comme ça peut se faire, je ne sais pas si ça se fait toujours au Japon, qu'un patron, un leader d'une boîte, il devrait reprendre et passer par les différentes étapes de l'ouvrier, de refaire un travail un peu manuel, revenir dans la réalité de l'entreprise?
Moi, j'y crois beaucoup, au moins pour mon métier, puis je mets ça avec des pincettes, c'est aussi mon... mon métier qui me le permet. Mais oui, c'est super important. Un samedi matin, typiquement, tu vas me retrouver au Fournil parce que, alors, au-delà du fait que j'aime mon métier, j'ai aussi envie de mettre la main à la pâte, tant dans une logique de recherche, développement, d'exploration, que tout simplement pratiquer et développer mon geste et mon expertise. Mais c'est aussi passer du temps dans ma boutique et de servir mes clients, comprendre les contraintes de mes vendeuses, les opportunités d'expliquer notre métier à nos clients, faire des tournées de livraison. Toutes ces petites choses-là, je les ai faites pour beaucoup d'entre elles quand j'étais plus petite, pour gagner mon argent de poche, mais c'est quelque chose que je continue de pratiquer parce que mon métier me le permet, certes, mais c'est effectivement quelque chose que je trouve assez important.
Et donc, tu continues de faire, c'est ça qui est le plus formidable. C'est-à-dire qu'en fait, ça te permet aussi peut-être de rester, pas tant les pieds sur terre, il y a bien sûr cette notion, mais c'est aussi au plus proche des équipes, de leur réalité du quotidien, en fait.
Ancré dans une réalité. Mmh. Mais il n'y a pas de... C'est la réalité de mon métier et de mon entreprise. Et puis, Poilane, ça reste une petite entreprise familiale. On a 5 boutiques à Paris. On a une vingtaine de tournées de livraison pour nos revendeurs, nos restaurateurs. Mais on reste une entreprise avec 150 personnes où je peux me permettre de faire ça. Et c'est pas forcément la réalité de toutes les équipes, de tous les secteurs d'activité. Mais en tout cas, je pense que sous une forme ou sous une autre, à un moment donné, il faut comprendre ce que l'on fait.
Parce que je vois, dans beaucoup d'entreprises, tu as des sortes de stages au service client, donc ils passent une heure ou deux à répondre aux clients, mais c'est pas la même chose parce que c'est quasiment j'ai l'impression que c'est pas aussi profond parce que toi quand tu le fais déjà c'est plus régulier, c'est pas 2 heures, et puis c'est beaucoup plus réel, c'est-à-dire que tu te mets dans les conditions réelles, t'es pas en train de te tester.
Ça c'est vrai, après c'est aussi qui je suis. Mes parents ont insufflé en moi et en ma sœur une forme de curiosité pour ce genre de choses. Nous, on adore découvrir, on adore apprendre, et c'est vraiment ce qui fait que, même si tu vois, tu me parachutais demain dans le service client que tu m'évoquais à l'instant en disant « Ok, ça va être 2 heures, etc. » Je sais que ça, j'ai adoré ce moment parce que je vais me dire « Ok, alors en amont, je vais me dire « Ok, comment ça va être si j'ai que 2 heures? Comment est-ce que je vais faire un... » Quelles sont toutes les questions que je vais me poser? Quelles sont celles qui sont les plus importantes pour être sûr que ces 2 heures soient soient pas juste un pinsomme.
Oui, c'est ça. Pour faire comme si.
Pour faire comme si, parce que c'est pas l'objet, quoi. Ça
non,
sert à rien.
C'est clairement pas.
Ne serait-ce que pour les équipes, en plus, c'est insultant sur le terrain parce qu'elles, elles partagent leur quotidien. Si toi, t'as pas d'attention pour elles, en fait, tu passes complètement à côté du truc.
Exactement. Je t'ai posé la question un tout petit peu avant, mais pas vraiment, et donc je vais te la reposer mieux. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'université, par rapport à l'expérience du terrain? Tu vois, parce qu'en fait, je sais pas quelles études avait fait ton père ou ta mère.
Ouais, alors, mon père était autodidacte au sens où mon grand-père l'a sorti de l'école quand il avait 14 ans. Et donc, il avait cette soif d'apprendre, mais il a fait tout son apprentissage plus scolaire, on va dire, en dehors des écoles. Mais pour moi, et c'était un sujet assez régulier entre mon père et moi, c'était de se dire, ce que je cherchais avec mes études universitaires, c'était un bagage technique que j'aurais le temps d'apprendre sur le terrain, mais que je pouvais apprendre de façon plus synthétique, peut-être plus poussée ou plus fine dans une école, dans une université. Et donc, c'était là un petit peu ma motivation. Après, ce que j'ai eu à Harvard, c'était l'échange avec un corps étudiant, avec des intérêts très divers, et ça c'est vraiment un carrefour d'intérêts, de culture, d'envie qui était incroyable.
Et le choix de l'université américaine versus université ou école française?
Alors, principalement motivé par le fait que je suis franco-américaine.
Ouais, effectivement.
Maintenant, les études aux États-Unis ne requièrent pas une spécialisation immédiatement. Et ça, je pense que c'était attirant tout autant que la vie sur le campus universitaire.
Ouais, et c'est vachement important. Il y a plein de trucs dans ce que tu as dit. Et moi, ce que j'ai remarqué quand je suis venu à la boutique, c'est la proximité avec les équipes. Et on parle beaucoup. Alors, c'est vrai que 150 personnes, ça reste une PME, techniquement. Et en même temps, moi, j'ai l'impression que c'est une bonne taille. Tu sais, tu connais le nombre, je sais pas si tu connais le nombre de Dunbar, tu vois, où c'est 150 personnes, ça fait un village, et qu'après, en fait, techniquement, les gens ne peuvent plus se connaître vraiment Et du coup,
oui, ou l'idée que tu peux avoir une réunion, il ne faut pas qu'il y ait plus que la taille, que si tu divisais une pizza ou bref. Je pense que c'est effectivement une bonne taille. Après, 150, c'est un chiffre qui peut faire peur, mais après, c'est aussi la taille des sous-équipes à l'intérieur. Et effectivement, la proximité que tu as avec tes équipes dépend de ta personnalité, dépend, j'imagine, aussi de ton industrie. Si tu as des différentes équipes aux quatre coins du monde, bah forcément, tu ne peux pas avoir la même proximité. Mais c'est vrai que pour moi et dans mon industrie, l'agroalimentaire au sens large, la boulangerie plus particulièrement, on nourrit les gens, on nourrit une communauté, on nourrit un quartier. Et donc, dans l'énoncé, il faut qu'il y ait cette proximité. Et pour moi, il est là, le fil rouge.
Et ça, c'est quelque chose qui est assez remarquable chez toi, parce qu'en fait, ça paraît, pour toi, ça te semble naturel, mais moi, je vois beaucoup de patrons de boîtes qui sont un peu déconnectés, en réalité, de la réalité de ce qu'ils vendent. Et Free, par exemple, est très connu parce qu'ils faisaient venir des clients dans le comité de direction pour parler avec des clients. Moi, j'ai vu, et je fais pas mal de marketing, des marketeurs qui n'utilisent pas le processus classique du client et du coup, qui sont complètement déconnectés de la réalité de l'usage de ce qu'ils proposent aux clients. Et en fait, ça peut sembler un peu fou, mais y a une déconnexion réelle entre des leaders, des marketeurs, des gens qui travaillent dans une entreprise de manière plus générale. Et puis, le service, le produit qu'ils vendent. Et en fait, toi, ça te semble sans doute naturel, mais ce n'est pas si classique en réalité.
Mais je peux tout à fait imaginer comment ça peut ne pas être classique selon les industries dans lesquelles tu es. Le cœur de ce que je fais, c'est je prends des grains et avec la magie de la fermentation, je fais du pain. Je fais des biscuits, je fais des pâtisseries boulangères aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais quelque chose qui est appréhendable par mes mains et que je suis capable de comprendre et de mener à bien. Et donc du coup, je pense que la nature même de ce que je fais m'incite à avoir cette proximité. Je pense pas que ce soit forcément vrai de toutes les industries ou de tous les métiers, mais je pense que mon métier y fait pour beaucoup.
On parle beaucoup de la fin des organisations pyramidales. Comment c'est organisé chez Poilane? Est-ce que c'est très pyramidal?
Alors, pour moi, pour Poilane, dans nos équipes, il y a globalement trois niveaux dans notre hiérarchie. Il y a mon équipe de direction et moi. Ensuite, on a des responsables d'équipe et ensuite, on a les équipes. Ça représente les différents métiers et leur organisation. Si on était plus gros, je pense qu'il y aurait peut-être une strate ou deux de plus ou des spécificités. Mais après, c'est aussi ma nature. Le manager du manager, c'est pas très compréhensible pour moi. À un moment donné, c'est nécessaire selon les tailles d'entreprise, mais c'est vrai qu'il y a ce moment où j'aime bien avoir les mains à la pâte. Les mains à la pâte, plutôt.
Mais en même temps, je reprends souvent cet exemple, mais Richard Branson, chez Virgin, il s'est rendu compte que comme la taille, moi je dis souvent, et j'y crois assez, que la taille déresponsabilise, il avait rescindé ses équipes en 150 personnes. Donc en fait, chaque bout de Virgin devenait des boîtes de 150 personnes parce que sinon tu n'arrives plus à connaître les gens, tu n'arrives plus. Et du coup, il avait ça. Donc même pour une grosse boîte, tu peux te dire finalement.